Allez, la question matin première du jour, on en parle depuis tout à l'heure, on a fait débat, on a entendu du pour, du contre, on parle de souffrance au travail. Ce matin, une problématique soulevée par les syndicats, ils protestent contre les idées de Chris Peeters et envisagent une grève nationale fin juin. Le ministre de l'Emploi veut la fin de la semaine de 38 heures, il veut plus de flexibilité surtout. Marie-Vanne Kutsem, ce matin nous recevons Pascal Denaring, directeur stratégique du CESI, c'est un service externe de prévention et de protection au travail.
Bonjour Pascal Denaring.
Bonjour.
Alors vous travaillez notamment aussi sur la prévention du burn-out, on le précise dans le cadre de cette interview. Alors plusieurs auditeurs ce matin remettent en cause cette notion de souffrance au travail. Ils nous disent que stress et travail vont ensemble depuis toujours, que c'était bien pire avant, voire aussi que c'est bien pire ailleurs, qu'on est bien loti en Belgique. Alors cette augmentation de la souffrance au travail dont nous parlent les syndicats, est-ce qu'elle est avérée ? Est-ce que vous avez des chiffres ?
Ben oui, d'abord, il faut se rendre compte. D'abord, comparaison n'est pas raison. Hein. C'est pas parce que ça ne va pas ailleurs qu'il ne faut rien faire chez nous. Alors, il faut savoir qu'effectivement, en Belgique, l'incapacité de travail est en train d'exploser. Surtout l'incapacité de longue durée. Hein. Il faut voir les chiffres de l'INAMI. Pour l'instant, on dépense plus en
7
incapacité.
7 milliards d'euros, dit-on.
Exact. Que pour les chômeurs, par exemple. Donc, c'est vraiment un problème de fond qu'il faut absolument pas nier. Il est totalement objectif. Et notamment les incapacités pour causes psychologiques ont véritablement explosé. Alors que traditionnellement, c'était les troubles musculo-squelettiques, hein, vos lombalgies, vos problèmes à un moment donné d'articulation ou de membres, ben, ce sont les causes psychologiques qui, pour l'instant, sont les plus importantes.
Marie-Hélène sur Facebook nous dit « Des mesures pour favoriser le bien-être au travail, il y en a, mais elles ne sont pas toujours respectées. » Alors, Pascal Denaring, vous travaillez donc dans un service externe de prévention et de protection du travail. Vous veillez donc au respect de la législation concernant le travail. Est-ce que c'est un constat que vous partagez ? Il existe des choses à faire, mais elles ne sont pas toujours appliquées.
En fait, oui, il existe énormément de mesures et beaucoup de responsabilités sur l'employeur, hein, notamment pour la prévention des risques psychosociaux, ce qu'on appelle notamment donc les phénomènes de stress, de harcèlement, de burn-out. Maintenant, l'application sur le terrain n'est pas toujours évidente parce qu'elle est plutôt dans les mains du CPPT, donc du Comité de Prévention et de Protection du Travail, qui est l'organe par excellence où syndicats et patrons, employeurs, doivent discuter sur les mesures à prendre. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des très grosses différences d'une entreprise à l'autre. Certaines entreprises, c'est une formalité. Dans d'autres cas, elles sont très dynamiques. Et on s'aperçoit que les entreprises qui sont très dynamiques et qui mettent en place une vraie concertation avec les syndicats sur les mesures à prendre, en général, gèrent mieux le phénomène que les autres. Donc ça, c'est aussi une réalité.
Et vous travaillez là-dessus pour justement dynamiser ces...
Oui, donc il faut savoir que au sein du CPPT, sont présents les conseillers en prévention, mais aussi les médecins du travail, les conseillers en prévention médecins du travail et les conseillers en prévention des services externes. Et lorsque ceux-ci sont des partenaires, ben, on peut prendre des mesures très concrètes de prévention, des sensibilisations, des formations, une révision de l'organisation du travail, hein, des modes d'organisation du travail, qui donnent effectivement et qui peuvent donner des effets concrets sur l'absentéisme, sur l'incapacité et donc aussi le stress vécu, je dirais, par les travailleurs.
Alors cette interview, c'est évidemment celle des auditeurs. On va écouter une réaction, c'est celle de Paul qui nous appelle de Wavre.
Des personnes qui sont victimes de burn-out dans l'entreprise, ben, ça avoisine des chiffres à deux digits, c'est-à-dire qu'on parle de 10 ou de 15% de la population d'une entreprise. C'est un coût très très important pour l'entreprise. Il faut savoir que le bien-être au travail n'est absolument pas incompatible avec productivité et qualité.
Le bien-être au travail, une garantie de productivité aussi des travailleurs. Est-ce qu'on n'en est pas suffisamment conscient aujourd'hui ?
Ah non, mais ça, c'est très clair. Hein. Donc si vous pouvez réduire le phénomène du stress en entreprise à un moment donné, vous allez voir votre productivité qui va augmenter. Hein. Je crois que beaucoup d'employeurs sont conscients qu'il y a un lien direct, mais ne voient pas toujours leur responsabilité dans la prise en charge du burn-out. Ça veut dire, à un moment donné, hésite à se dire, mais quand quelqu'un est en burn-out, c'est quand même aussi pour des raisons personnelles. Donc, d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça veut dire que là, il y a...
On considère trop que c'est individuel, le problème du burn-out ?
Ah oui, en général, on se dit, bon, ce sont des personnes qui sont plus faibles, qui sont plus fragilisées, etc. Alors qu'il faut savoir que le burn-out touche effectivement des personnes qui sont très engagées dans le milieu du travail. Et donc, effectivement, il y a une composante personnelle qu'on ne peut pas nier, mais le burn-out s'exprime dans le milieu du travail et donc les causes sont d'abord des causes qui sont liées au travail. Donc il y a encore un stéréotype là-dessus, on mélange dépression et burn-out.
Est-ce qu'on a tendance aussi à stigmatiser les personnes qui sont victimes de burn-out aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu délicat à aborder au sein de l'entreprise ?
Oui, on peut le dire. Donc, il y a ce mélange dépression-burnout qui a la dent dure. C'est pas du tout le cas, en plus. Donc, effectivement, il y a encore dans pas mal d'entreprises une difficulté de la prise en charge et de se dire, l'entreprise peut faire quelque chose concrètement contre ça. Oui, ça, effectivement. Ah, oui. Stigmatiser, c'est peut-être un grand mot, mais en tous les cas, il y a une hésitation à se dire, ça fait partie intégrante de la réflexion organisationnelle de l'entreprise.
8h51, notre invité est Pascal Denaring. On parle souffrance au travail, Marie.
Oui, alors Christian, comme d'autres auditeurs d'ailleurs, met ce matin le focus sur le rôle du manager. Il nous dit, il doit être formé à gérer les gens, ce n'est pas toujours le cas. Il doit donner du sens au travail, il doit être à l'écoute de ses travailleurs. Est-ce qu'on en attend trop de son supérieur aujourd'hui?
Ah, le super manager, donc on en est là. Donc il faut savoir que la première chose à faire pour le manager, c'est d'abord apprendre à gérer lui-même les difficultés auxquelles, et les pressions auxquelles il peut être soumis. Donc c'est déjà pas évident pour lui. C'est un travailleur comme un autre, le manager. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des composants de formation importantes. Se rendre compte, par exemple, que quand on est manager, on a une fonction en charge et que c'est pas une mission, donc pour absolument atteindre des objectifs, etc., c'est assez important. Donc apprendre à diminuer déjà la pression pour soi-même, c'est déjà pas mal. Parce qu'effectivement, beaucoup de managers ne se rendent pas compte qu'ils transmettent leur propre pression sur leurs collaborateurs. Ils n'ont pas forcément l'intention de leur mettre de la pression, mais ils le vivent eux-mêmes et donc ils le traduisent. Donc je crois que la formation des managers sur le dépistage et l'attention à leurs propres signaux d'alerte, c'est déjà pas mal. Alors après, c'est vrai qu'il y a des pratiques de management qui favorisent ou au contraire, à un moment donné, diminuent la charge de stress chez les collaborateurs. C'est plus qu'évident. Donc il y a des modes d'organisation du travail très très concrets qui sont mis en place par les managers qui génèrent énormément de stress. L'individualisation à outrance, une certaine forme de travail dans l'urgence permanent, une attente d'une réponse à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il y a des réponses avec reproche si ça n'est pas fait. Tout ça sont vraiment des choses à bannir parce que c'est d'abord totalement inefficace au niveau organisationnel et puis deuxièmement, ça va générer à terme énormément de problèmes, dont par exemple de la rotation du personnel, pas seulement de l'absentéisme.
Qui coûte cher aussi d'ailleurs.
Très cher.
Alors Marie occupe un poste à responsabilité, elle nous explique qu'elle a parfois beaucoup de mal à appliquer des mesures qu'elle n'approuve pas à son personnel, donc vous parliez du mal-être aussi des personnes à responsabilité. Elle explique également qu'elle a l'impression qu'on psychologise de plus en plus le travail. On engage des psys au travail pour faire accepter la dégradation des conditions de travail, c'est ce qu'elle nous dit. Alors c'est vrai que c'est une tendance actuellement, on met des cellules en place au sein des entreprises pour permettre aux travailleurs qui se sentent mal de pouvoir aller discuter avec quelqu'un qui est capable de les écouter. Est-ce que vous avez l'impression qu'on se trompe de solution en faisant ça ?
Non, c'est-à-dire qu'il faut scinder deux choses. Donc, quand vous mettez des professionnels en place dans l'organisation, c'est pour gérer, à un moment donné, une situation donnée, un symptôme. Donc, avoir des psychologues dans l'entreprise, qu'ils soient d'ailleurs internes ou externes, par exemple des conseillers en prévention, aspects psychosociaux, ça peut être une excellente chose. Parce que quand un problème se pose et que vous êtes malade, vous vous soignez. Et donc, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ça peut vraiment aider. Par contre, c'est vrai que si on croit que ces professionnels vont à eux seuls résoudre les problèmes et qu'on n'a pas une réflexion de fond, là on se trompe. Donc c'est deux mesures complémentaires. C'est lorsqu'on prend l'une pour l'autre que ça pose problème.
Merci à beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. 8h54 dans quelques instants. Manu Di Pietro est avec nous. Il va rajouter son petit grain de sel dans Matin Première. On le retrouve juste après ceci.
Matin Première, jusqu'à 9h.